Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes à tirer des médias suivants. La presse et la Voix de l'Est. Au programme, la rescousse des problèmes de santé mentale. Pour que nos désirs respirent. Et les nouvelles les plus importantes du secteur alimentaire en 2022. Bonne écoute.
À la rescousse des problèmes de santé mentale, un texte de Isabelle Dubé, paru le 14 février 2023 dans la presse. Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale garantie collective chez Sun Life, répond à nos questions sur le leadership. Pourquoi êtes-vous une fervente défendresse du leadership bienveillant? Ce type de leadership a un pouvoir immense sur la capacité des organisations à bien performer tout en gardant leurs employés en bonne santé mentale. Je crois que c'est aussi l'ingrédient clé pour avoir une main-d'œuvre engagée. En 2021, le Massachusetts Institute of Technology, MIT, a analysé 34 millions de profils d'employés aux États-Unis. Parmi ces employés, les chercheurs voulaient savoir lesquels avaient quitté leur emploi entre avril et septembre 2021 et pour quelles raisons. Le but est de prévoir les risques de démission. Le salaire, par exemple, est un prédicteur moyen qui explique le départ d'un employé. Or, une culture toxique est un facteur 10 fois plus important pour prédire un départ. On parle d'une culture où il n'y a pas d'écoute ni de transparence, où les employés manquent de reconnaissance et d'autonomie, où ils n'ont pas la capacité de prendre des risques, car on n'accepte pas les erreurs. On parle beaucoup des problèmes de santé mentale actuellement. Quelle en est l'ampleur? On est le plus grand assureur de garantie collective au Canada. On constate que la raison la plus importante de nos invalidités à long terme est la santé mentale. Pas moins de 33 % des invalidités long terme ont comme cause principale un problème de santé mentale. La deuxième cause la plus importante, qui représente 15 % des invalidités à long terme, c'est le cancer. Alors oui, il y a une crise majeure de santé mentale qui touche les travailleurs. De quelle façon le style de gestion a-t-il un effet sur la santé mentale des employés? Il y a encore une culture de stigmatisation, il y a encore des préjugés envers ceux qui font une dépression. Cette culture, ou bien l'inquiétude qu'il y ait cette culture, fait en sorte que les gens craignent d'être jugés et sont mal à l'aise de parler de leurs problèmes. En restant silencieux, ils n'accèdent pas aux ressources disponibles pour les aider. Un leadership bienveillant, c'est donc un outil important pour enlever les stigmas. Une écoute, une ouverture d'esprit, on admet nos vulnérabilités et on en discute. Se rendre vulnérable et humain nous-mêmes en tant que gestionnaire permet d'enlever ces stéréotypes de super-héros. Ce leadership bienveillant permet d'arriver avec des solutions. On a des programmes d'aide aux employés, des couvertures de garantie collective et des programmes de formation. Mais si on n'en parle pas, on n'accède pas à ces solutions et on empêche la prévention ou le traitement rapide du problème. On connaît les avantages d'augmenter la diversité au sein des organisations. Quels moyens prenez-vous pour y parvenir? Premièrement, la Sun Life et moi, personnellement, avons pris des engagements concrets avec des dates précises. nous voulons atteindre une proportion de 50 % de femmes et de 25 % de personnes de différentes origines ethniques dans des postes de hauts dirigeants d'ici 2025. Ensuite, il faut trouver des moyens pour atteindre ces engagements. Si on a une courte liste de candidats et candidates qui ne semblent pas diversifiés, on ne se permet pas de continuer le processus d'embauche. On se questionne. Avons-nous ratissé assez large? Sommes-nous allés à l'extérieur de nos réseaux? Est-ce qu'il y a des biais dans notre description de rôle qui ont fait en sorte que seulement certaines personnes ont postulé? La deuxième chose, c'est la représentativité. Je suis membre de la communauté LGBTQ2S+, et je crois que c'est important que les employés de cette communauté puissent voir qu'ils ressemblent à des gens de la haute direction et qu'ils puissent s'imaginer eux-mêmes à des postes de direction. Je vois que je fais une différence. Mais c'est difficile de dire si j'attire du talent plus représentatif ou si le talent est plus à l'aise de parler de sa diversité. Je pense que ça fait partie du leadership bienveillant, que ça montre une grande inclusion. Les gens m'en parlent. Ils se sentent représentés, vus et inclus. Quel type de reconnaissance les employés apprécient-ils le plus dans votre organisation? On a le prix d'excellence du chef de la direction. C'est une grande reconnaissance formelle, appréciée et reconnue. Je remarque que les employés apprécient aussi ce qui est informel, de petits moments précis qui ne sont pas nécessairement hiérarchiques. Ça peut être un pair ou un collègue qui prend le temps d'exprimer un remerciement ou un compliment en disant « C'est chouette ta présentation ». Mais ce qui est le plus apprécié, c'est lorsque les employés trouvent que leur travail a un sens. Quand ils sentent qu'ils ont aidé un client ou fait une différence, ça leur apporte une grande reconnaissance. C'était « À la rescousse des problèmes de santé mentale », un texte de Isabelle Dubé, paru le 14 février 2023 dans la presse. Pour que nos désirs respirent, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 12 février 2023 dans la presse. Comment entretenir l'envie d'avoir envie, comme le chantait Johnny? Le sociologue et philosophe Frédéric Lenoir n'est pas parti dénicher les réponses dans un refrain de rockeur, mais dans les écrits de grands penseurs, de Platon à Bergson. À l'occasion de son passage au Québec, il décortique avec nous son dernier essai « Cultiver le désir et vivre aux éclats » paru chez Flammarion Québec pour exposer les mécanismes des appétits de l'âme. D'où émane ce souhait de l'auteur de disserter sur le désir? Quand on parle du désir, les gens pensent spontanément à la sexualité. Mais si on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que le désir est le moteur de nos existences, rappelle-t-il en entrevue, précisant que le contexte s'y prête, émaillé de pandémie, de guerre en Ukraine et d'inflation, minant nos élans vitaux. Un moteur à piston multiple, puisque le désir arbore de nombreux visages, au gré des approches des penseurs d'antan, et à la lumière des mœurs actuelles. On trouve, par exemple, servi au cours du banquet de Platon, le désir manque, qui nous pousse constamment à vouloir ce que l'on ne possède pas. Depuis, les neurosciences ont éclairé ce circuit de la récompense carburant à la dopamine et entretenu par notre cerveau primaire, le striatum. Il n'y a pas de limite. On en veut toujours davantage et on voit bien ce que cela donne dans le cadre d'une société de consommation. Nous sommes de perpétuels insatisfaits, affirme Frédéric Lenoir. Or, il faut opérer un travail de lucidité et de modération en se satisfaisant de ce que l'on a déjà, comme le prône Aristote et Épicure, ajoute Lenoir. La première partie du « cultiver le désir » se penche ainsi sur divers dérivés du concept qui, en fin de compte, nous nuisent. Le désir mimétique, mon voisin l'a, donc je le veux. La jalousie, les appétits impulsifs alimentés par le consumérisme et les réseaux sociaux, etc. Dans un second temps, il analyse comment, au fil de l'histoire, plusieurs modèles ont tenté de juguler les désirs, parfois perçus comme des sentiers vers le vice ou la souffrance, par exemple le stoïcisme, le bouddhisme ou les impératifs religieux. Lenoir débouche finalement sur un trio proposant une approche plus saine du désir, se référant à Spinoza, Nietzsche et Bergson. Pour eux, le désir n'est pas que le manque, c'est une puissance vitale qui nous traverse et nous met dans la joie. Il ne faut surtout pas le diminuer, mais le cultiver, en apprenant, par la raison, à l'orienter vers des personnes ou des idées qui sont justes, personnelles et adéquates pour nous-mêmes et pour les autres. On parle beaucoup des désirs de l'avoir, alors qu'il faudrait plutôt cultiver les désirs de l'être, par exemple par la connaissance, l'apprentissage, la création artistique, dit Frédéric Lenoir. Le philosophe souligne par ailleurs avoir été frappé au cours de ses recherches par la force des désirs collectifs, normés par les différents contextes culturels, se manifestant dans le glissement d'un modèle de surconsommation vers des modèles de sobriété, davantage orientés vers le partage et l'écologie. Dans 20 ans, vouloir une Rolex sera ringard. Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui, même très diplômés, ne veulent plus gagner plein d'argent, mais avoir une qualité de vie, constate-t-il. Des clés du désir. Dès lors, comment entretenir le feu des désirs bénéfiques et authentiques? L'auteur propose un éventail de pistes à suivre pour recalibrer nos boussoles. En tête, il place l'importance de la créativité, débordant du simple carcan artistique, ainsi que l'a défini Henri Bergson, philosophe majeur du début du siècle dernier. Pour lui, l'évolution de la vie est créative, partant dans des directions imprévisibles. Quand l'être humain participe pleinement à cet élan vital, c'est là qu'il s'épanouit le plus, résume-t-il. Lenoir suggère ainsi d'insuffler la créativité dans divers aspects de sa vie professionnelle ou personnelle. Ça s'exprime de mille manières. Un chef d'entreprise, un artisan peuvent être très créatifs, tout comme on peut l'être quand on cuisine chez soi, illustre-t-il. Il nous oriente également vers la reconnexion avec la nature, capable de recharger nos batteries désirantes, mais aussi celles avec autrui, en soignant la qualité de nos liens sociaux, qu'ils soient amicaux ou familiaux. Autre clé, l'acceptation de la mort inéluctable, tout en pratiquant la pleine conscience de notre corps et notre esprit, en savourant chaque geste, chaque sensation, chaque petite satisfaction du quotidien. Qu'il s'agisse de savourer son thé, ou de ressentir l'eau sur notre corps quand on prend sa douche, l'attention que l'on met dans tous les menus plaisirs du quotidien nous satisfait pleinement quand on en est conscient. Beaucoup de gens sont déprimés car ils sont tout le temps dans leur tête et se coupent des sensations corporelles, souligne-t-il. un sexe nommé désir. Bien entendu, bien qu'il ne s'y résume pas, le désir se conjugue aussi avec la sexualité. Après avoir égratigné le modèle freudien, le noir embraye sur l'épuisement de la libido, mis à mal par les standards de la pornographie, son culte de la performance et son caractère bestial. Pour le philosophe, la clé résiderait dans la recherche de l'équilibre entre les trois conceptions de l'amour dans la Grèce antique, Eros, le désir, Philia, la complicité et Agapé, le don inconditionnel, toutes développées dans son ouvrage. Mais en attendant que les ressorts de l'envie se retendent chez ses lecteurs, l'auteur est-il lui-même saisi de quelque aspiration? J'ai le désir d'une écriture différente, audiovisuelle. Je co-écris une série sur la philo et les jeunes, avec un côté comédie, pour laquelle je recherche un producteur. Et j'ai aussi un projet de long métrage, annonce-t-il, prêchant ainsi par l'exemple. C'était, pour que nos désirs respirent, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 12 février 2023 dans la presse.
Les nouvelles les plus importantes du secteur alimentaire en 2022. Un texte d'opinion du Dr Sylvain Charlebois, professeur titulaire directeur principal, Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, paru le 27 décembre 2022 dans La Voix de l'Est. À l'instar d'une année 2021 très chargée, l'année 2022 déborde d'histoires liées à l'alimentation. Le secteur alimentaire a fait la une à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois. Cet automne, faire une rétrospective de l'année représentait un beau défi intéressant. Cette année encore, notre laboratoire en sciences analytiques de l'Université Dalhousie vous présente une rétrospective des 10 principales nouvelles ayant influencé le secteur alimentaire pendant l'année. 10. Grippe aviaire. Au-delà de 260 fermes ont été touchées par la grippe aviaire et plus de 4 millions d'oiseaux ont dû être abattus en raison de plusieurs éclosions survenues cette année. Alors que la dinde et le poulet s'en sortent, la reprise de l'industrie du canard demeure incertaine. La grippe aviaire, probablement l'une des histoires alimentaires qui aurait dû attirer plus d'attention, a vraisemblablement rendu la volaille, la viande et les œufs plus chers à l'épicerie. 9. Cyberattaque. L'année 2022 nous a rappelé que le cyberterrorisme constitue une menace réelle pour nos approvisionnements alimentaires. Sobeys et Maple Leaf Foods ont subi une cyberattaque cette année. JBS Canada a payé l'an dernier une rançon d'une valeur de 11 millions de dollars. Personne ne sait si Sobeys ou Maple Leaf Foods ont aussi payé une rançon, mais nous nous attendons à plus de piratage à l'avenir. Espérons que l'industrie alimentaire sera prête. 8. Pénurie de préparation pour nourrissons. Peu de gens savaient que le Canada ne produit pas son propre lait maternisé liquide ou en poudre pour bébé. Toute la production de l'usine Canada Royal Milk, situé à Kingston, en Ontario, est envoyé en Chine. Difficile à croire. Partout au pays, les parents ont du mal à trouver des préparations pour nourrissons depuis le début du mois de mai 2022. Encore une fois, un autre événement montrant à quel point nous pouvons rapidement devenir vulnérables en tant que pays lorsqu'une seule usine américaine cesse ses opérations. 7. Approbation par la FDA du poulet cultivé en laboratoire. La viande cultivée, souvent appelée la viande de laboratoire, se retrouvera sur nos étals très bientôt. La FDA américaine vient d'approuver le poulet de culture aux États-Unis. Une fois que l'USDA l'aura approuvé à son tour, cette viande de culture sera commercialisée aux États-Unis. En ce qui concerne l'environnement, le bien-être animal, les épizooties et les pandémies, cette technologie peut changer la donne à l'avenir. Le Canada pourrait être le prochain pays à approuver ce produit. Mais si vous voulez que ces produits portent un étiquetage adéquat, ne retenez pas votre souffle. 6. Rappel de laitue. La Californie s'assèche et représente de plus en plus un problème pour le Canada. À l'automne, le prix de la laitue a bondi en un rien de temps, et encore fallait-il en trouver. La situation se replace tranquillement avec des laitues qui proviennent d'ailleurs. La pénurie de laitue au Canada cette année présente un autre exemple de la façon dont les changements climatiques forcent désormais le commerce alimentaire international à se redéfinir. 5. Chaos des engrais. Le gouvernement Trudeau veut une réduction de 30 % des émissions d'ici 2030, ce qui n'inclut pas nécessairement les engrais. Mais les producteurs affirment que la réduction des émissions d'oxyde nitreux ne peut être obtenue sans réduire l'utilisation des engrais. Cette politique a attiré l'attention pendant plusieurs mois cette année. Ottawa veut une réduction absolue des émissions, peu importe la productivité ou l'efficacité de l'utilisation des engrais. Pour de nombreuses cultures, la capacité de nos agriculteurs à cultiver n'importe quoi sera gravement compromise, à moins qu'ils n'utilisent plus de terres. Voilà un autre exemple de la façon dont la politique urbano-centrique oriente les politiques agroalimentaires de nos jours. 4. Nouvelles règles d'étiquetage d'Ottawa sur le devant de l'emballage. Santé Canada a annoncé en juin qu'elle irait de l'avant avec une politique qui exige des symboles nutritionnels sur le devant de l'emballage des aliments riches en gras saturés, en sucre et en sodium. Ce concept fournira des étiquettes claires et faciles à lire. Les fabricants ont jusqu'au 1er janvier 2026 pour modifier leur étiquetage et se conformer à la nouvelle exigence. Cette nouvelle réglementation a fait naître l'expression désormais bien connue « N'étiquetez pas mon bœuf », depuis qu'Ottawa avait l'intention d'étiqueter les produits à ingrédients uniques, comme la viande hachée, devenant potentiellement le premier pays au monde à le faire. Ottawa a changé d'avis à la dernière minute. Cette nouvelle norme incitera les fabricants à produire des aliments plus sains, car elle crée des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises. Bonne décision d'Ottawa. 3. Blocus. Chrystia Freeland avait raison. Les blocus ont eu des répercussions sur la réputation du Canada aux États-Unis et ont peut-être donné aux Américains une autre excuse pour soutenir leur politique « America First ». Plusieurs blocus à travers le pays ont interrompu le commerce entre le Canada et les États-Unis. Le pont Ambassador, le passage terrestre international le plus achalandé entre les États-Unis et le Canada, a été fermé du 7 au 13 février. Entre 8 et 12 milliards de dollars de produits agroalimentaires traversent le pont Ambassador dans les deux sens chaque année. Le Canada n'a vraiment pas bien paru. 2. L'inflation alimentaire et la quête de coupables. L'inflation devient une préoccupation majeure pour tout le monde cette année. Le fait que le Canada a le deuxième taux d'inflation alimentaire le plus bas au sein du G7 n'a aucune importance. D'une enquête parlementaire à l'étude de notre Bureau de la concurrence sur les profits des épiciers, de nombreux Canadiens accusent l'industrie de l'épicerie, essayant de trouver un bouc émissaire pour les problèmes d'abordabilité des aliments. L'industrie a ressenti la pression des campagnes de cupidité cette année. Cela a même incité l'Oblat à mettre en œuvre la plus grande politique de gel des prix au monde pour un épicier jusqu'à la fin janvier 2023. Même s'il est important que les décideurs et les régulateurs comprennent ce qui se passe, il n'y a aucune preuve d'abus dans le commerce de détail alimentaire. Mais les doutes persistent. 1. Ukraine. Comment l'Ukraine ne peut-elle pas occuper la première place et constituer la plus grande nouvelle de l'année? Lorsque le pays a été cruellement envahi par la Russie le 24 février, de nombreux Canadiens ne réalisaient pas à quel point cette région du monde jouait un rôle si essentiel au sein du secteur agroalimentaire mondial. Avec sa production agricole, l'Ukraine peut nourrir 400 millions de personnes chaque année. C'est plus que la population américaine. Les exportations russes frappées par les sanctions sont également critiques. Quelques mois après l'invasion, de nombreuses denrées atteignaient des niveaux de prix records. En juin, les transformateurs ont dû payer davantage pour les intrants, ce qui a finalement affecté l'inflation alimentaire à travers le globe. L'accès aux engrais a également été compromis. Espérons que 2023 apportera une fin pacifique aux horreurs subies par le peuple ukrainien. Bref, l'année 2022 a été pour le moins captivante, mais elle a aussi apporté son lot d'inquiétudes. Nous devrions espérer que l'année 2023 apportera plus de paix et de santé au monde, y compris aux Ukrainiens. C'était les nouvelles les plus importantes du secteur alimentaire en 2022, un texte d'opinion du Dr Sylvain Charlebois, paru le 27 décembre 2022 dans La Voix de l'Est.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.